franceinter.fr.
Demain matin, nous avons notre première séance de psychanalyse.
Mais ça va pas la tête.
Il faut vaincre tes terreurs.
Ça demande psychologie, doigté, souplesse.
Réchiche ta pensée.
Je pense que t'es un ouf, toi.
Ah, je suis zinzin. Je suis zinzin.
Bonjour à tous, bienvenue dans Ça va pas la tête, une émission réalisée par François Audouin, préparée par Agathe Le Taillandier et Lilith Sahakian avec l'aide de Liane Sylvestre. Acte manqué, lapsus, complexe d'Édipe, libido, stade anal, autant de termes entrés dans la culture populaire et dans le langage de tous les jours. Que l'on soit freudien ou hostile au freudisme, connaître certains concepts de la psychanalyse est utile à tout honnête homme. Je vous propose en compagnie de nos invités ce matin deux ou trois choses à savoir sur la psychanalyse pour briller en société avec un seul principe de plaisir, butiner avec légèreté, quelques concepts clés dans l'immense champ freudien. Et puis nous reviendrons sur deux films qui mettent en scène la psychanalyse, La maison du docteur Edwards d'Hitchcock et A Dangerous Method de David Cronenberg.
France Inter, Ali Rebi.
Mais moi les dents et je les soigne.
Ça va pas la tête.
Alors si j'ai bien tout compris, parce que j'ai tout lu Freud. De la main gauche donc. Si j'ai bien tout compris, le monde aurait deux problèmes d'importance. Que un serait le cul. Et que l'autre serait le fric. Moi, je me suis dit, comme tout le monde a un cul, je vais m'occuper du fric. Erreur grave. Parce qu'en fait, le plus grave problème, c'est le cul. Le cul, c'est mal. Par exemple, bite, c'est un gros mot, bite. Même si c'est une petite bite.
Vous avez bien sûr reconnu Coluche dans ce sketch en 1980. Bonjour Alain Héril.
Bonjour.
Je suis ravi de vous accueillir dans Ça va pas la tête. Vous êtes psychanalyste, sexothérapeute. Vous avez notamment publié Le sourire intérieur chez Erol ou encore Femme épanouie chez Payot. Alors je n'ai jamais fait de psychanalyse et je ne suis ni freudien, ni lacanien, ni jungien. Et pourtant il me semble que la connaissance des grands concepts de la psychanalyse doit faire partie du bagage de l'honnête homme.
Je ne sais pas si ça fait partie du bagage de l'honnête homme. En tout cas, c'est vrai que les termes psychanalytiques sont complètement rentrés dans le langage commun, que tout le monde les utilise, parfois un peu à contresens. Je pense qu'on va remettre un certain nombre de choses en place ce matin, autant que faire se peut. Mais c'est vrai que la psychanalyse, elle fait partie maintenant du langage courant et du langage commun. Oui, tout à fait.
Est-ce que vous constatez une perte d'influence de la psychanalyse à l'heure où les thérapies brèves, les thérapies comportementales mentale et cognitive triomphe.
Alors oui, il y a effectivement une perte de la présence psychanalytique dans tout ce qui est le champ du travail thérapeutique, parce que c'est aussi lié à notre structure sociétale où tout le monde veut aller vite, tout le monde veut résoudre des problèmes très rapidement, et l'idée de passer un temps relativement long autour de soi, autour de ses problématiques, autour de son inconscient, pour certaines personnes, c'est juste impossible. Donc oui, il y a une perte d'influence, mais néanmoins, je pense que cette influence, elle est quand même toujours présente. C'est juste un mauvais moment à passer.
Bonjour Damien Aupetit.
Oui, bonjour.
Psychologue, clinicien, psychanalyste. Bonjour Jean-Jacques Ritz.
Bonjour.
Également psychologue, clinicien et psychanalyste. Vous avez tous les deux publié aux éditions de L'Opportun, Le Petit Freud illustré. Qu'est-ce qui vous a poussé à publier ce livre très léger à un moment où, on le disait, la psychanalyse semble avoir perdu son magistère moral? Jean-Jacques Ritz.
Eh bien justement, on a voulu, en quelque sorte, malgré la couleur du livre, faire le livre rose de la psychanalyse. Voilà. Pour rappeler qu'au fond, c'est une approche de l'homme extrêmement importante qui vise à nous donner un respect de la pensée immense. Et aussi, on a voulu donner une leçon aux psychanalystes en leur disant, vous prenez pas trop au sérieux, c'est bien quand même d'avoir un petit peu d'humour. Donc on a donné les concepts, puis ensuite on est associé librement de façon soit extrêmement géniale, mon cher Damien, soit cacaboudin aussi, on n'a pas, c'est pas censuré. Hein, voilà.
Damien Aupetit, pour vous, la psychanalyse reste un passionnant voyage intérieur qui vise à rendre l'individu plus libre.
Alors plus libre, oui, je pense plus libre à la fois de ses choix, c'est-à-dire que finalement plus on se connaît, plus on se sent en accord avec soi-même, parce que finalement on se rend compte que plein de choses nous dépassent, et d'arriver à décoder cette intériorité nous permet d'être libre.
Bonjour Karine Mioche.
Bonjour.
Psychologue et psychanalyste, vous avez rédigé un dossier passionnant sur les débuts de la psychanalyse dans la revue Éléphant, une revue de culture générale. Alors, dès ses origines, la vision révolutionnaire de l'homme proposée par la psychanalyse suscite rejet, violents débats et guerre de chapelle.
Oui, c'est vrai que la psychanalyse a toujours été très controversée et de nombreuses discussions houleuses ont eu lieu autour. Hier, en découvrant le titre de l'émission d'aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai eu un souvenir de Theodor Reich, qui était un éminent psychanalyste viennois à l'époque de Freud. Et au moment, la question est de comment transmettre finalement la psychanalyse, c'est ce que je crois pose le thème d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'a fait Theodor Reich quand il a immigré aux États-Unis? Il a eu une pratique lumineuse là-bas et il a participé à des émissions de radio. Ça a été très controversé, mais ça a eu un succès fou.
De vulgarisation de la psychanalyse, évidemment. Bonjour Guillemette Odissino.
Bonjour Ali.
De Télérama et de France Inter, le samedi matin avec Laurent Bourdon, Studio Chabrol. De nombreux films ont mis en scène la psychanalyse, ou sont des échos à des grands concepts freudiens. Je pense bien sûr à la maison du docteur Edwards d'Hitchcock.
Absolument, Hitchcock a fait ce film sur la psychanalyse, où on suit l'analyse d'un patient qui a un petit problème d'amnésie infantile, hein, ça lui donne un complexe de culpabilité, mais il a aussi fait des films innervés, complètement irradiés même par la psychanalyse. On peut penser à Pas de printemps pour Marnie, oui, dont l'héroïne est quand même frigide et kleptomane, de problèmes qui se résolvent sur le divan.
Très fréquent.
Et tous les films, que ce soit Vertigo, que ce soit évidemment Psychose, tous les films d'Hitchcock parlent de névrose, de psychose. Et le cinéma, en général, aime bien les pathologies. Si on devait mettre sur le divan tous les héros pathologiques du cinéma, les psychanalystes auraient du boulot pour un bout de temps.
N'hésitez pas à témoigner sur l'appli France Inter ou sur Twitter, hashtag ça va pas la tête.
Again, to my chagrin, I'm getting sick and tired of feeling sick and tired again. I tried to write, 'cause I got the right to make it look as if I'm doing something with my life. Got to find a it's always the same. Another dream to ease the panic and the suffering. I woke up again, drank the gun, got deep. When the mirror's ugly and I'm sick and tired of looking at him. Been up all night, I probably picked a fight, 'cause I can't help it, I'm a bastard in the morning. So they try to write, I think I have the right. A little drinky now and then to help me just to see the light. Just another day, it feels like nothing's changed. Chase you, no know.
The Libertines sur France Inter. Mmh.
Mais ça va pas la tête.
France Inter, Ali Rebbi.
Oh oui, ça ne va pas bien.
Ça va pas la tête.
9h19 sur France Inter, et je vous propose deux ou trois choses à savoir sur la psychanalyse pour briller en société, avec une belle brochette de psychanalystes, Alain Héril, Karine Mioche, Damien Petit et Jean-Jacques Ritz, et avec l'égérie de Ça va pas la tête, la journaliste Guillemette Audicino. Karine Mioche ou Alain Héril ou Jean-Jacques Ritz, comment présenteriez-vous la psychanalyse à quelqu'un qui ne connaîtrait strictement rien de cette thérapie? Jean-Jacques Ritz, ça tombe sur vous.
Ah oui, alors là, c'est très très intéressant. Eh bien, d'abord, il faut savoir si la personne a un inconscient. Et ça, c'est pas toujours facile à prouver. Hein, il y a des gens dont les professions n'ont pas un inconscient, d'une part. Et d'autre part, si ces personnes aiment rêver, et, ou aiment faire des lapsus, ou ont un lien un peu avec ce qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer dans la vie, s'ils ont un imaginaire, qu'est-ce qu'ils aiment lire, etc. On voit quand même, comme on l'a évoqué tout à l'heure, beaucoup de résistance à la psychanalyse et beaucoup de gens qui disent ça sert à rien, c'est poétique ou c'est philosophique, quoi.
Alain Rive.
Oui, pour aller dans le sens de ce que dit Jean-Jacques, la question, c'est la question du mystère. C'est-à-dire que moi, si j'ai quelqu'un en face de moi qui veut faire une psychanalyse, je lui poserai la question de savoir est-ce qu'elle aime le mystère. Parce que toute la difficulté dans la psychanalyse, c'est d'accepter d'être mystérieux à soi-même. Et donc d'avoir à l'intérieur de soi des parts de nous-mêmes qui nous échappent, qu'on ne connaît pas et sur lesquelles on va mettre un faisceau de lumière. Je dis bien juste un faisceau, hein, on ne met jamais la lumière complètement dessus. Donc accepter d'être mystérieux à soi-même, c'est déjà une bonne manière d'accepter de rentrer en psychanalyse.
Karine Mioche.
Oui, la lumière, vous dites. Donc Lacan parlait d'une vessie pour parler de l'inconscient, donc où on peut mettre une lumière effectivement petit à petit. Et la psychanalyse, c'est aussi redonner une dignité à la parole et la faire résonner, cette parole, pour chacun.
Guillemette Audicino.
Oui, mais vous disiez que accepter d'être mystérieux à soi-même, c'est très beau, mais il y a, j'imagine, beaucoup de gens qui ont surtout peur de se révéler à eux-mêmes.
Bien sûr.
Bah, la psychanalyse crée de la peur, de toute manière. Le nombre de patients et de patientes que j'ai eu et qui venaient vraiment avec la trouille au ventre, et je trouve que c'est plutôt une bonne chose, parce que ça laisse entendre qu'il y a un enjeu, que c'est pas si simple que ça de faire un travail psychanalytique, hein, bien entendu. Et puis, on met la lumière sur soi très, tout doucement, hein. On parlait de vessie. Mmh. Hein, faut pas prendre les vessies pour des lanternes, bien entendu. Mmh. Et donc il y a ça aussi qui est en jeu. Oui.
Alors débutons notre exploration de quelques concepts clés de la psychanalyse, en commençant par l'inconscient. Freud n'a évidemment pas inventé l'inconscient, mais qu'est-ce que l'inconscient freudien, Alain Héril?
Alors c'est une question à laquelle il est évidemment très difficile de répondre, parce que l'inconscient, on a commencé à en parler, l'inconscient, c'est ce qui est de l'ordre de l'insu, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on ne sait pas de soi, qui émerge à l'intérieur de soi à son propre insu. Donc l'inconscient, on va le repérer dans les lapsus, dans les actes manqués, dans sa sexualité, dans les symptômes, dans tous ces éléments-là. Définir l'inconscient, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, et j'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux ne pas le définir, l'inconscient, que ce qui est intéressant, c'est d'accepter que ça existe à l'intérieur de soi et de laisser de la place à l'intérieur de soi pour que ça puisse émerger.
L'inconscient, c'est le réservoir des pulsions humaines les plus archaïques, Karine Mioche?
Oui, voilà, ça c'est très bien vu, absolument. On pourrait dire, par exemple, que l'inconscient, c'est quelque chose de non réalisé. Quelque chose qui n'est pas né encore, qui est en attente. Et en fait, c'est là, effectivement, où le refoulement déverse quelque chose. Et dans cet inconscient freudien, ça parle et ça fonctionne de manière très élaborée. On peut dire que qu'on trouve dans l'inconscient les effets de la parole sur chacun, sur le sujet.
Jean-Jacques Ritz, Freud nous dit que l'inconscient, c'est un chaos, une marmite pleine d'émotions bouillonnantes.
Oui, tout à fait. Mais ce qu'il faut redire, c'est qu'au fond, l'inconscient, il est toujours présent. Hein. J'avais un vieux professeur que j'adorais qui nous disait « Cause toujours, dit l'inconscient au moi, c'est moi qui cause. Hein, » C'est l'inconscient, et bien sûr, dans les lapsus, etc. Mais dans tout ce qu'on appelle le symptôme, eh bien, c'est l'inconscient qui est présent, là, et avec l'histoire de l'individu.
Damien Aupetit.
Oui, par rapport à l'inconscient, il me semble justement que constamment, on est dirigé par l'inconscient. C'est-à-dire que c'est à notre insu, et c'est seulement en arrivant un peu à décoder qu'on comprend finalement ce qui nous motive, en lien avec les pulsions, justement.
Hey, tu te rends compte, j'ai coupé au divan une séance à la verticale.
Ah, ensuite, j'ai parlé de la famille, de mes sentiments à l'égard des hommes et de ma vraie relation avec mon frère. Mmh. Alors, elle a parlé d'envie de pénis. Tu connais ce machin, toi ?
Moi, oui, je suis même un des rares mâles qui soude ce machin. Alors, tu vois, continue, tu m'intéresses.
Elle a dit que je réprimais trop toutes mes pulsions vis-à-vis du mariage et des enfants. Mmh. Alors, je me suis rappelé que gamine, une fois, par hasard, j'avais vu mes parents faire l'amour.
Vrai ? Et tout ça pendant la première séance ? C'est fascinant. Moi, ça fait 15 ans et rien. Rien de tout ça.
Oh, et je lui ai raconté mon dernier rêve et j'ai pleuré.
Tu as pleuré ? Mais moi, jamais je n'ai eu ce résultat. Mais c'est fascinant. Je me lamente. Moi, je suis assis là, et je me lamente.
Alvi, dans mon rêve, Frank Sinatra réussit à m'étouffer avec un polochon, alors je suffoque.
Sinatra ?
Oui, en quelque sorte, il m'étrangle et tu vois.
Ah oui, mais c'est normal, ça, c'est parce que c'est un chanteur et toi une chanteuse. C'est clair comme de l'eau de roche. En fait, tu cherches à t'étouffer toi-même, c'est parfaitement logique. Tiens, même moi, je suis capable de faire une analyse géniale comme ça.
Et elle dit que tu t'appelles Singer, et Singer en anglais, ça veut dire chanteur.
Ce qui signifie, et moi ?
Eh oui, toi, parce que dans le rêve, je casse les lunettes de Sinatra.
Sinatra, or, et depuis quand Sinatra a des lunettes ? Ça veut dire quoi ? Tu insinues donc que c'est moi qui veux t'étouffer ?
Un extrait d'Annie Hall de Woody Allen, Jean-Jacques Ritz. Le rêve, c'est bien sûr la voie royale pour accéder à l'inconscient.
Oui, le rêve, c'est la voie royale pour accéder à l'inconscient. C'est aussi une autre vie que l'on a. Hein. Et il faut remarquer que dans nos souvenirs, il y a aussi les souvenirs des rêves. Il n'y a pas que les souvenirs de la vie éveillée. Donc, c'est une aventure fantastique. Moi, chaque fois que je me couche, je me dis, ça y est, c'est parti pour de grandes aventures. Et je voudrais vous raconter un rêve raconté par une psychanalyste que j'ai bien connue. C'est une femme, parce que c'est une femme qui s'endort, il fait beau, c'est l'été, elle est nue sur son lit, elle est au rez-de-chaussée, la fenêtre est ouverte, et elle s'endort. Elle se met à rêver qu'elle est en train de dormir, et tout d'un coup un très bel homme entre dans la pièce avec des intentions qu'il ne cache pas. Alors, toujours dans son rêve, elle lui dit « Mais vous allez quand même pas !» Ah, il dit « Ah, j'en sais rien, c'est pas moi qui rêve, c'est vous
!» Alain Héril.
Oui, c'est vrai qu'on a par rapport au rêve, et on passe quand même, si on prend une vie humaine, beaucoup de décennies à rêver. Et c'est vrai que le rêve, c'est un réservoir et c'est une mine absolument extraordinaire pour pouvoir mieux saisir, mieux comprendre comment on s'organise au niveau de l'inconscient dont on parlait tout à l'heure, en sachant que nous avons quand même besoin d'un certain nombre de décodages, d'interprétations, d'approches, parce que le rêve arrive masqué. Hein, il n'est pas si simple que ça à pouvoir décoder et comprendre.
Guillemette Odissino.
Dans cet extrait de d'Annie Hall, on voit que Woody Allen tente un descriptif du rêve assez facile. C'est pas si facile que ça, l'interprétation des rêves. Maintenant, on a l'habitude de dire « Oh, tu as rêvé de ci, oh, ça devait vouloir dire ça ». Je pense pas que ce soit si facile que ça.
Karine Mioche.
Oui, c'est une question absolument fondamentale dans notre pratique, c'est-à-dire comment interpréter le rêve. Ce qui prévaut, c'est que le patient lui-même en arrive à dire quelque chose de son rêve. Et ensuite, nous, on fait résonner ça.
Il y a juste une petite chose que je voudrais rajouter, c'est que l'un des intérêts de la psychanalyse, c'est que aussi le psychanalyste s'aperçoit en travaillant avec son patient qu'il est lui-même un patient et qu'il a été un patient. Donc les patients rêvent, mais nous aussi nous rêvons. Et que parfois il y a des interférences entre les rêves des patients et les nôtres qui sont extrêmement intéressants à pouvoir regarder.
Freud a peu à peu abandonné le terme d'inconscient pour parler de ça. Damien Petit, le ça ne connaît que le principe de plaisir. Freud nous explique que c'est la partie obscure, impénétrable de notre personnalité.
Alors oui, dans le sens où du fait qu'il y a ce ça, ce réservoir pulsionnel, hein, tous ces désirs, si on passait notre temps à accomplir nos désirs, ce serait un peu le bordel. Vous imaginez le studio là. Du coup, on va sans cesse, avec le surmoi, la censure, essayer de freiner ce désir, pour finalement arriver comme à vivre en société avec les autres.
Alors Freud parle d'instance du psychisme, c'est-à-dire du fonctionnement, du système de fonctionnement psychique de notre inconscient. Alors on y retrouve quoi ? Le moi, le surmoi, l'idéal du moi, nous venons d'évoquer le ça. Qu'est-ce que le moi, Alain Héril ?
Le moi, alors c'est là encore, hein, c'est très schématiquement, le moi, je dirais que c'est un principe organisateur, mais en même temps, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, Freud n'a pas abandonné la notion de l'inconscient. l'inconscient pour remplacer par le ça fait partie de l'inconscient. Le moi fait partie de l'inconscient et le surmoi aussi. C'est-à-dire que dans l'inconscient, il y a toutes ces instances qui sont présentes. Donc le moi est une instance, je dirais, qui tente d'organiser les choses. Je dis bien qui tente. Et Freud disait que le moi n'est pas maître dans sa propre demeure puisqu'il est constamment questionné par justement ses pulsions, le ça, le surmoi et tout ça. Donc c'est un principe organisateur, c'est une tentative d'organisation qui ne réussit pas toujours.
Qu'est-ce que le surmoi ? Le surmoi surveille nos faits et gestes, c'est une sorte de ministère de l'intérieur, Jean-Jacques Ritz ?
Ah ben complètement, c'est le petit CRS de poche, hein, voilà. Bon, et c'est, il n'est pas d'accord avec le sur-toi, qui est un concept que nous avons inventé récemment. Mais,
alors le surmoi pose des interdits et nous voilà. Fait culpabiliser en cas d'infraction.
Tout à fait, voilà, c'est exactement ça. Oui, oui, c'est la culpabilité, tout à fait.
Karine Mioche.
Oui, par exemple, le surmoi, c'est lorsque une jeune personne va aller, je prends un exemple, chez le médecin. Le médecin va lui dire ce que tu as, c'est pas grave, mais par contre, tu vas pas te baigner. Donc, la jeune personne va ensuite, alors que c'était quelqu'un qui se baignait, ne va plus aller dans l'eau. Et sans se rendre compte finalement que ça vient d'une parole qui a pesé sur elle. Elle a intériorisé, on va dire, l'interdit qui venait de l'extérieur.
Des
parents ou du médecin ou d'une parole importante. Le surmoi, c'est une intériorisation finalement de l'interdit entendu.
Alain Herry, le surmoi, c'est un empêcheur de tourner en rond ?
Oui, c'est un empêcheur de tourner en rond, oui, bien sûr. Et puis dans le surmoi, on va retrouver tout le système éducationnel, tout le système moral, les systèmes de valeurs. Il y a une dimension sociétale aussi dans le surmoi qui est présente. Et donc, il y a tout ça qui est en jeu. Mais à la limite, pourquoi devrait-on tourner en rond,
Jean-Jacques Ritz?
Non, mais je j'ai oublié ce que je voulais
dire. C'est la fonction de l'oubli. Voilà.
Qu'est-ce que
Non, ça y est, j'ai
les souvenirs. Les souvenirs oubliés ne sont jamais perdus.
Merci, c'est gentil. Oui, alors le surmoi quand même, on peut le prendre en défaut. Comment ? Avec l'humour. C'est-à-dire qu'on peut raconter des blagues très salaces, très trucs, où tous les interdits, l'inceste sont là, mais c'est de l'humour.
Qu'est-ce qu'un conflit psychique ? La vie psychique ressemble à un champ de bataille où s'affrontent le moi, le surmoi, le ça. Karine Mioche.
Peut-être que pour évoquer un conflit psychique, je dirais qu'on en a quasiment en permanence. C'est-à-dire, on voudrait faire quelque chose consciemment. Et on fait autre chose. Quelque chose nous pousse justement à faire autre chose. Donc qu'est-ce que c'est que ce truc qui pousse ? Voilà.
Oui, heureusement qu'on a des conflits psychiques parce que ça laisse entendre qu'à l'intérieur de nous, il y a toujours des concertations qui sont en place, des tentatives de consensus, et le mot consensus, en tant que psychanalyste, on entend beaucoup de choses. Et donc, sur ce terrain-là, ça laisse entendre que nous ne sommes jamais tranquilles. Mais heureusement que nous ne sommes pas tranquilles parce que ça nous permet d'être toujours en interrogation sur nous-mêmes et toujours en travail.
Vous la soignez toujours ?
Oui. Et nous allons toujours de découverte en découverte. Un exemple. L'étonnant procédé qu'elle a élaboré au plus jeune âge, où elle s'accroupissait sur un seul talon, elle s'employait à déféquer, et simultanément, elle s'empêchait de déféquer. Elle dit y avoir trouvé la plus profonde satisfaction.
C'est un beau récit.
Un extrait de A Dangerous Method de David Cronenberg. Ah, oui. Alors, selon la théorie freudienne, les individus évoluent selon plusieurs stades, le stade oral, le stade anal, le stade phallique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu tout ça, Damien Petit ? Le stade oral d'abord.
Alors, le stade oral, c'est le stade tout bébé, c'est celui, la découverte, où on va prendre les choses, le monde, on va voir ce qui est bon, ce qui est pas bon.
À travers la bouche.
À travers la bouche, en effet. Et puis aussi un peu, malgré tout, le toucher. C'est vraiment l'exploration du monde. Après, le stade anal, c'est plutôt celui du contrôle, de ce qu'on va vouloir garder à l'intérieur de soi.
Ou donner.
C'est la question de la maîtrise, la propreté.
Alain Héril.
Oui, il y a un élément qui est important dans le stade anal, c'est la question de la socialisation. Parce que le stade anal, c'est aussi le moment où l'enfant comprend qu'il y a quelque chose d'intime et quelque chose d'extime. Et ça, c'est un moment fondateur de l'être humain, parce que ça permet de comprendre qu'il y a des choses qui se font dans certains espaces et d'autres dans d'autres espaces. Donc ça a vraiment cette fonction-là, et c'est très directement lié aussi au père également, le stade anal.
À propos de père, le stade phallique, c'est quoi ? Karine Mioche.
Alors déjà, enfin par rapport au stade oral, c'était juste une petite précision. Effectivement, c'est la bouche, mais c'est aussi les lèvres, les dents, c'est-à-dire c'est tout l'enclos et le plaisir qu'il y a à ce qui se passe par là. Allez-y.
Jean-Jacques Ritz, le stade phallique.
Ah, le stade phallique. Alors le stade phallique, je ne sais pas si ça existe finalement. Je me suis toujours posé des questions sur ce que ça voulait dire.
On laisse tomber alors.
Oui,
si vous y croyez pas.
J'aimerais bien que vous répondiez.
Le stade phallique, déjà on entend phallus. Donc le stade phallique, c'est quand même le moment où il y a une espèce de préoccupation plus d'ordre génital, et avec, alors je vais essayer d'être le moins complexe et abscon possible, et avec le fait qu'il y a aussi une prise en compte et une prise en charge de la dimension phallique, donc de la représentation dans l'inconscient du pénis, et qu'on va traduire sous le terme de phallus. Donc c'est presque le moment où l'individu va s'ériger et va mettre en place sa rencontre avec l'autre.
Damien Petit.
Oui, c'est aussi la question du pouvoir, la puissance, et puis en effet, le phallus n'a pas de sexe. Hein. On dit qu'il y a des femmes phalliques et des hommes très con.
Guimette et Dissino.
C'est compliqué de parler après ça. Mais est-ce que le stade phallique, c'est pas aussi, je marche sur des œufs, le moment où il faut tuer le père, comme on dit, pour obtenir justement cette autorité, avoir son propre statut phallique, qu'on soit un homme ou une femme?
Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. C'est jamais aussi simple que ça, mais ça sert à quoi de tuer le père? Tuer le père, ça sert aussi à pouvoir l'incorporer à l'intérieur de soi. C'est ça qui est important. C'est pas simplement s'en débarrasser.
Mais tuer le père, c'est souvent l'accepter, en fait, tout bêtement.
Exactement. Il y a une question d'acceptation, justement, de cette dimension phallique à travers le meurtre symbolique du père.
N'hésitez pas à intervenir sur l'appli France Inter ou sur Twitter. Hashtag ça va pas la tête.
De ce musicien, c'était l'automne à la maison. Je me souviens de ce musicien, c'était l'automne sur son violon. Le temps n'est plus où passer les violons quand tu étais dans la maison. Il attend plus depuis tant de saisons, le temps n'est plus au violon. Maisonville, dans ma chambre ville, je passe l'été à écouter cette symphonie qui était si belle et qui me rappelle un amour fini. Moi, dans ma maisonville, dans la chambre ville, je passe l'été à regarder les oiseaux qui passent comme des menaces et chantant le tonneau, je n'attends personne. De ce musicien, un soir d'adieu à la maison. Je me souviens moi de ce musicien et de l'adieu sur son violon. Et chaque année, lorsque l'année finit, j'entends le violon de septembre et le passé comme une symphonie fait son entrée dans cette chambre. Dans la chambre vide, je passe ma vie à écouter cette symphonie qui était si belle et qui me rappelle un amour fini. Moi, dans la maison vide, dans la chambre vide, je passe ma vie à regarder les oiseaux qui passent comme des menaces et chantent dans le tonneau, je n'attends personne.
Michel Polnareff dans La Maison Vide.
Monsieur, des idées noires vous assaillent. L'envie de sauter par-dessus la rambarde vous passe par la tête dès que vous traversez un pont. Vous collectionnez les cordes et les armes à feu chez vous sans trop savoir pourquoi. Monsieur, n'attendez pas une seconde. Utilisez le psy. Le psy est une personne qui saura vous redonner la joie de vivre grâce à ses pilules magiques. Le psy est une personne solide et à votre écoute. Affrontez de nouveau la vie avec le sourire grâce au psy. Le psy, disponible à chaque coin de rue. Attention, le psy, lorsqu'il est médecin, est remboursé par la sécurité sociale, à consommer donc avec modération.
Ça va pas la tête.
Pastille administrée par le docteur Audouin avec la voix de l'auteur. 9h39 et je vous propose deux ou trois choses à savoir sur la psychanalyse pour briller en société avec les psychanalystes Alain Héril, Karine Mioche, Damien Aupetit et Jean-Jacques Ritz et avec l'égérie de Ça va pas la tête, la journaliste Guillemette Audicino. Petit intermède culturel, Guillemette Audicino, avec la maison du docteur Edwards d'Hitchcock en 1945 avec Gregory Peck.
C'est l'un des films, Bergman.
Bien sûr, et c'est l'un des films les plus passionnants consacrés à la psychanalyse.
C'est sans doute l'un des plus clairs pour comprendre à peu près la démarche psychanalytique, puisque ça concerne un psychanalyste lui-même qui a un souci, un très très gros souci, qui est persuadé d'avoir tué son prédécesseur. En fait, pas du tout. Il lui est arrivé quelque chose dans l'enfance, évidemment je ne vais pas vous révéler quoi, mais à la suite d'une analyse, à la suite d'une belle descente sur des skis, avec un trucage assez visible, mais bon, à la suite de quelques inserts d'images de Salvador Dali, que Hitchcock avait commandé à Salvador Dali exprès pour les rêves, pour illustrer les rêves, on arrive à la guérison du patient. C'est quand même le but de la cure analytique. C'est un peu le film à l'usage de ceux qui voudraient connaître la psychanalyse à travers le cinéma, avec quelques lourdeurs évidemment, mais c'est très réussi.
Il y avait un petit débat hors antenne avec Jean-Jacques Ritz autour de la maison du docteur Edwards.
Oui, enfin non, je crois que c'est très intéressant ce que vous venez de dire. Mais on a fait la critique à Hitchcock de donner une explication à la psychanalyse qui était une des premières explications aux croyants, c'est-à-dire découvrez le traumatisme caché de votre enfance et vous allez guérir. Eh ben non, c'est pas ça la psychanalyse. Même si ça peut aider, c'est vraiment pas tout à fait ça. Et lui, il a un petit peu fonctionné comme ça dans les histoires de ses films.
Pour lui, la psychanalyse est un ressort de thriller, disons.
Voilà. Bien.
Alain Héril, d'autres films de Hitchcock sont éminemment psychanalytiques.
Oui, bien sûr, on a cité Pas de printemps pour Marnie. Moi, il y a un film que je trouve très psychanalytique chez Hitchcock parce qu'il parle pas directement de psychanalyse. C'est Les oiseaux, par exemple, où là, on peut voir quand même les oiseaux comme une représentation du ça dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire de tous les éléments pulsionnels qui sont là et qui ressortent malgré les habitants de cette petite ville américaine et comment ils sont questionnés par leur dimension pulsionnelle à travers les oiseaux qui sont bien sûr juste symboliques.
Asseyez-vous. J'ai jeté un coup d'œil à votre dossier. C'est quoi déjà votre nom ?
Izzy.
C'est un diminutif, ça. C'est quoi votre nom ?
Je vous demande pardon.
Votre vrai nom, c'est quoi ? Concentrez-vous un peu.
Mon nom, c'est Isabella.
Ah ! Voilà ! Isabella. Et vous avez changé ça en Izzy. Vous avez occulté la part de tendresse qu'il y a en vous parce qu'Isabella, c'est très doux et Izzy, c'est très dur. Voilà qui en dit long sur votre personnalité, je trouve. Vous êtes mal à l'aise avec la douceur qui vous habite. Alors, vous exagérez votre côté rebelle. C'est vrai ou c'est faux ? Où est votre fiche ? Ok. Alias Glowstick. Pourquoi alias Glow, machin, c'est... Oh ! Call Girl ? Mais c'est dégoûtant. Comment vous pouvez supporter de faire ça ? Honnêtement. Et il y a un moyen d'avancer dans ce job ?
Oui, mais on recule aussi vite. Vous savez, moi, ça m'a jamais posé de problème.
On ne rigole pas en thérapie.
Un extrait de Broadway Thérapie de Peter Bogdanovich avec Jennifer Aniston, film sorti cette année. On ne rigole pas en thérapie, Jean-Jacques Ritz ?
Ah, ça, c'est une très bonne question. On rigole moins que ce qu'on pourrait croire. Moi, qui ai une réputation de rigolo, quelquefois, mes amis m'envoient des patients qui disent « Tiens, je vais aller chez lui parce qu'il est rigolo. » Mais bon, au bout de deux séances, ils disent « Non, c'est pas drôle, finalement. » Et oui, bien sûr, ça peut être plus une défense dans la thérapie. J'avais une patiente qui racontait des blagues tout le temps, par exemple.
Damien Petit.
Alors, moi qui travaille beaucoup avec les enfants, je passe mon temps à jouer, à rigoler avec eux, parce que la thérapie de l'enfant, c'est le jeu. Donc là, le rire est toujours présent.
Comment se déroule une cure psychanalytique, cette cure par la parole, Alain Héril ?
Alors, il y a bien entendu des concepts de base dans ce travail-là. Personnellement, moi, je peux parler que de ma pratique. Je n'allonge pas mes patients tout de suite, c'est-à-dire que je fais d'abord des séances en face à face. La position allongée vient plus tard. Et puis, il y a aussi un élément dont on n'a pas parlé qui est très important, c'est le lien entre le thérapeute et le patient, c'est-à-dire le fameux transfert et contre-transfert, et par rapport auquel une thérapie digne de ce nom ne peut avoir lieu que s'il y a effectivement cette circulation transférentielle entre le thérapeute et le patient qui permet qu'un certain nombre de choses puissent pouvoir émerger, dont à certains moments cette dimension de l'humour dont on parlait, parce que pour revenir sur l'humour, je dirais qu'en psychanalyse, l'humour peut être présent, mais c'est pas toujours celui auquel on s'attend.
Qu'est-ce que ce fameux transfert, Karine Mioche, Freud disait que c'est une chose bien étrange que le patient réincarne dans son analyste un personnage du passé.
Oui, on a parlé aussi d'une sorte de faux amour, du nombre d'amours. Et dans ce transfert, on trouve le transfert positif, c'est-à-dire qu'on a le psy à la bonne, ou un transfert qui peut être plus négatif, c'est-à-dire quelque chose de plus ambivalent. Et là, on a l'analyste plutôt à l'œil. Et le transfert, en un mot, c'est la mise en acte de la réalité de l'inconscient en tant qu'elle est sexualité avec l'analyste.
Guillemette Odissino.
Au cinéma, dans certaines comédies, on a ce cliché souvent d'un patient qui parle énormément et d'un psy qui se tait derrière, éventuellement en s'endormant d'ailleurs. Est-ce que le psy se tait vraiment ou est-ce que c'est faux, il dialogue avec son patient?
Jean-Jacques Ritz.
Ah oui, aussi une bonne question. Je crois qu'il y a eu des périodes de pratiques d'analyse très diverses. Et dans les années après-guerre, 50, 60, où c'était très très orthodoxe, très rigide, il y avait des analystes qui ne disaient pas mot. Une vieille grand-mère aurait remplacé facilement l'analyste en tricotant. Ça, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, je crois qu'il y a des nouveaux processus analytiques. La psychanalyse évolue. Il y a, comme dit Roussillon, de nouveaux dispositifs. Et donc, je crois que, je ne sais pas, enfin, on peut en parler chacun, mais il y a plus de paroles chez l'analyste.
Alain Héril.
Oui, j'ai relu récemment quelqu'un qui est absolument passionnant, qui s'appelle Paul Roazen, qui a travaillé avec des patients de Freud, qui l'a interrogé dans les années 60. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que la pratique de Freud n'était pas une pratique silencieuse. Freud parlait, Freud était présent, Freud touchait ses patients également. Et donc, je pense qu'il y a, vraiment une espèce d'image un peu d'épinal du psychanalyste qui parle pas, mais je pense qu'à l'heure actuelle, on est en contact, on est en dialogue, il y a du silence et il y a de la parole aussi.
Karine Mioche.
Alors pour répondre à Guillemette, plus qu'un dialogue, on va dire que c'est le patient qui parle et l'analyste fait résonner ce que le patient dit.
Et qu'est-ce qu'elle t'a dit alors?
Elle a dit que pour moi, le bon rythme, c'était 5 fois par semaine. Et tu vois, j'avoue que je suis pas contre l'analyse, au fond. Le seul problème dans l'histoire, c'est vais-je perdre ma femme?
Perdre ta femme?
Perdre ma flamme.
Oui, non, d'accord, mais tu as dit perdre ma femme.
Non, c'est faux, j'ai dit vais-je perdre ma flamme, Alvin.
Ah, tu as dit vais-je perdre ma femme.
J'ai dit flamme.
Non, elle a dit vais-je perdre ma femme. Vous étiez présent, vous avez entendu, je suis pas fou, non?
Et puis au fait, je lui ai dit que j'étais persuadée que tu ne m'avais jamais réellement prise au sérieux. Parce que tu me trouvais trop bête pour toi.
Un nouvel extrait d'Annihol de Woody Allen. Qu'est-ce qu'un acte manqué, Damien Petit, ce sont les faux pas, les erreurs, les lapsus, les oublis, ce sont les rejetons du refoulement pour Freud, ces actes manqués.
Alors en effet, c'est tout ce qui finalement, c'est quand l'inconscient ressurgit. Rien que pour venir ce matin à la radio, on a failli faire 2-3 actes manqués, aller à Marseille au lieu de Paris, des choses comme ça.
C'est vrai?
Limite. Jean-Jacques Ritz.
Oui, alors c'est un client qui va voir un psychanalyste et qui lui dit, écoutez, c'est terrible, je fais sans arrêt des lapsus et des actes manqués. Il dit, ça arrive à tout le monde. Ah non, quand même, moi, donnez-moi un exemple. L'autre jour, je suis allé déjeuner chez ma mère, je voulais lui dire, passe-moi le sel, et je lui dis, salope, tu m'as gâché la vie.
Alain Héril, les actes manqués surviennent quand l'inconscient déjoue la surveillance de la conscience?
Oui, on peut dire ça, c'est-à-dire qu'il y a le surmoi, comme on disait tout à l'heure, qui est dans sa vigilance, et tout d'un coup, la vigilance, elle saute pour X raisons. On peut dire de façon un petit peu concise qu'un acte manqué pour le conscient peut être un acte réussi pour l'inconscient, d'une certaine manière.
Vous croyez que Freud a raison? Que toute névrose a une origine strictement sexuelle?
Je crois que l'obsession de Freud pour le sexe provient sans aucun doute du fait que lui-même ne pratique guère.
Un nouvel extrait de A Dangerous Method de David Cronenberg. Alain Héril, et la libido dans tout ça, et le sexe dans tout ça.
Mais on n'arrête pas d'en parler depuis tout à l'heure. On ne parle que de ça.
La libido, il existe bien des contresens sur la libido.
Oui, parce que...
Qu'est-ce que c'est exactement ?
Parce qu'effectivement, même Freud lui-même, entre les premières définitions de la libido et celles qu'il y a après 1920, ce sont des définitions qui bougent un petit peu. On peut dire, là encore, pour être très, très schématique, que la libido, c'est quelque chose qui a à voir avec l'énergie sexuelle, avec la pulsion sexuelle, mais qui peut aussi s'organiser en dehors de la sexualité génitale en tant que telle. Un acte créateur peut être très empreint de libido. Là, ici, si on est ici et si on est heureux d'être là les uns avec les autres, c'est libidinal comme situation aussi. Hein. Donc la libido, elle est partout. Je dirais qu'elle est partout comme l'inconscient.
Damien Petit.
Oui, en effet, plus largement, la libido, c'est la question du plaisir, du désir. Je crois que c'est un des reproches qu'on fait parfois un petit peu aux pianistes ou à la pianiste, c'est-à-dire que c'est que de la sexualité. Non, c'est beaucoup plus large que ça, évidemment.
C'est ce que disait Coluche en début d'émission, le sexe et le fric.
Voilà. Oui, tout à fait.
Karine Mioche.
Oui, la libido, c'est la présence du désir.
Mais c'est un synonyme de pulsion sexuelle, libido ? Alain Héril ?
Non, pas directement. C'est-à-dire que c'est là où il y a un malentendu aussi. C'est pour ça que je disais que la libido, elle peut aussi avoir une dimension sublimée, qu'elle peut être aussi autre chose que le sexuel direct. La seule chose, c'est que la sexualité, la plupart du temps, quand on pense sexualité, on pense acte sexuel. Mais la sexualité, c'est pas l'acte sexuel. Nous passons beaucoup plus de temps dans notre vie à penser à la sexualité qu'à la vivre. Et donc, cette dimension du désir, et le mot, il est absolument fondamental, cette dimension du désir, elle nous constitue, elle est ce que nous sommes en tant qu'être humain.
Damien Petit, que dire du complexe d'Édipe, qui renvoie bien sûr au mythe grec d'Édipe. Dans le langage commun, on dit souvent « Ah ben tiens, il n'a pas réglé son Édipe, celui-là ».
D'ailleurs, je voulais passer un petit coucou à ma maman que j'aime.
Merci. Spéciale dédicace sur France Inter. Voilà, c'est très bien.
Non, c'est le moment idéal.
Non, justement, c'est le moment idéal. Voilà.
Je pense que c'est une bonne illustration de ce que c'est que l'Oedipe. En effet, c'est être amoureux de sa maman. Bonjour, papa.
Jean-Jacques Ritz.
Ah ben l'Oedipe, oui, c'est très très important dans la structuration de l'enfant, et au fond je crois qu'il n'y a pas que dans la petite enfance qu'on la vit, c'est toute la vie qu'on vit dans ces troubles d'amoureux, de qui choisir. On est toujours pris dans cette trilogie-là.
Le complexe d'Édipe désigne les pulsions amoureuses qu'un enfant éprouve à l'égard de ses parents, mais certains chercheurs ne croient absolument pas à l'universalité du complexe d'Édipe. Je pense à l'anthropologue Malinowski, Alain Héril.
Alors, par rapport à cette notion-là, je ne crois pas non plus à l'universalité de l'Oedipe. Et d'ailleurs, Freud lui-même, il y a une lettre assez célèbre qu'il a écrite en 27-28 là-dessus, où il se pose la question. Je pense qu'il y a une dimension fondamentalement occidentale de l'Oedipe. On n'a pas le temps de développer ça, mais c'est quand même un moment structurel pour un enfant et pour un adulte. Effectivement, c'est un point de référence continuel de ce que nous sommes, ce lien aux parents du sexe opposé. Juste une petite chose, c'est que l'Oedipe, il faut pas oublier que ça se vit à deux, ça se vit du côté de l'enfant vis-à-vis du parent, mais du côté du parent vis-à-vis de l'enfant aussi. C'est très important de le dire.
N'hésitez pas à témoigner sur l'appli France Inter ou sur Twitter, hashtag ça va pas la tête.
Une pluie folle, folle, folle. Sous une pluie folle, folle, folle. La silhouette rentre enfin. La silhouette rentre enfin. Sous une pluie folle, folle, folle. La silhouette
la langue. Entre deux boueuses, flac, flac. Avisant une personne, la silhouette agite la main. La silhouette agite la main. Avisant une personne.
Bertrand Belin, folle, folle, folle.
Ça va pas la tête?
Demain matin, nous avons notre première séance des psychanalyses.
Ali Rebéi, ça va pas la tête? Sur France Inter.
9h55 sur Inter et on s'intéresse encore quelques minutes à quelques concepts de la psychanalyse.
Et votre petite patiente russe, comment ça se présente?
Comme je vous l'avais raconté, après l'abréaction initiale, les progrès ont été spectaculaires. Merci. Nous l'avons inscrite à la faculté de médecine de l'université où elle réussit brillamment. C'est une réclame ambulante pour l'efficacité de la psychoanalyse.
Psychanalyse, si cela ne vous fait rien.
Oui.
C'est moins étymologique. Mais c'est plus joli.
Un nouvel extrait de An Dangerous Method de David Cronenberg qui raconte la relation entre Freud et Jung, Guillemette Odissino, mais pas que.
Pas que. Relation un peu conflictuelle, basée sur l'admiration au départ, et puis ça va se déliter entre eux, puisque justement Jung va vouloir être psychologue analytique pour partir un peu loin de Freud, dont il considérait justement qu'il parlait de sexe tout le temps. Pour Jung, il y avait d'autres choses, y compris Dieu, la foi, la morale, voilà, des choses différentes. Et surtout, c'est l'histoire de Sabina Spielrein, cette patiente qui est la patiente de Jung, qui est hystérique. Ça me permet de dire que l'hystérie n'est pas cette chose qu'on emploie constamment pour nous, les femmes, nous dire qu'est-ce qu'elle est hystérique, cette gonzesse. Donc l'hystérie, un vrai concept, une maladie, elle est soignée par Jung et elle va devenir la première psychanalyste femme.
Et d'ailleurs, en matière d'hystérie, les psychiatres parlent désormais de personnalité histrionique. Jean-Jacques Ritz, très vite.
Oui.
Vous vouliez intervenir
sur la phobie ou sur
l'hystérie? Non, sur l'hystérie.
Donnez-moi raison, qu'il y en a marre.
Alors l'hystérie, enfin, qui a été quand même très, très bien analysée par de nombreux psychanalystes, c'est une très grande souffrance, c'est une très grande questionnement sur sa sexualité, sur sa bisexualité. Et voilà. On a tort de s'en moquer, et les hommes aussi sont hystériques.
Alain Eril ?
Juste une petite chose, vous citez Sabina Spielrein, je voudrais juste dire qu'il y aurait un regard enfin à avoir sur la place des femmes dans la psychanalyse, parce que Sabina Spielrein, comme Hélène Deutsch, comme de nombreuses personnes, sont souvent les grandes oubliées de la psychanalyse.
Jean-Jacques Ritz, nous avons consacré cette semaine une émission aux phobies, et je ressens une immense culpabilité, car nous n'avons pas évoqué la conception freudienne des phobies. Je me sens très coupable.
Très rapidement, c'est très simple. La phobie, c'est une angoisse qui se trompe d'objet. C'est-à-dire que j'ai peur des araignées, mais c'est pas du tout ça dont j'ai peur. J'ai peur certainement de quelque chose qui a été refoulé, c'est-à-dire que mon vieil oncle barbu m'a entraîné dans les bois quand j'avais 3 ans et demi. Mais je l'ai refoulé. Et alors du coup, j'ai peur des araignées. C'était très, très caricatural ce que je dis. Mais juste un mot, ne jamais se moquer des phobies. Et respecter les phobies des gens, enfants et adultes.
Un mot de conclusion, très rapide autour de la table, Alain Eril.
C'est-à-dire que le mot de conclusion, je reprends un petit peu ce qui était dit au début, c'est que ça me paraît important justement que vous ayez fait cette émission et qu'on se retrouve là entre psychanalystes et puis à parler de la psychanalyse, à essayer de lui redonner sa juste place, si je puis dire. Donc merci beaucoup.
Karine Nioche.
Oui, le monde change, la psychanalyse change aussi, elle n'en est qu'à ses débuts.
Jean-Jacques Ritz.
Merci de nous avoir invités.
Merci. Damien Aupetit.
Juste si vous voulez savoir un petit peu plus, jetez un œil à notre bouquin, Le Petit Freud Illustré. Il est plus beau passage.
C'est bien, Damien Aupetit. Il apprend vite, c'est bien. Merci Alain Eril, Jean-Jacques Ritz, Damien Aupetit, Guillemette Odissino et Karine Mioche. Vous pouvez podcaster l'émission et retrouver toutes les références citées sur franceinter.fr et sur l'appli France Inter. À la technique ce matin, il y avait Alain Gadan. Dans un instant, vous retrouvez Mishka Assayas. Bonjour Mishka.
Bonjour Ali.
Vous allez bien?
Comme toujours.
J'adore votre émission, vous savez.
C'est
un podcast.
C'est réciproque. J'ai pas quoi répondre. Merci.
Au menu, dans Very Good Trip.
Au menu, bah, c'est des crooners, toujours, cette fois romantiques et mélodieux. Voilà.
À tout de suite.
À tout de suite.